Et c'est le moment de retrouver Lynn Kearney pour sa dernière chronique de la saison. Lynn, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et c'est tout à propos, on s'était pas parlé, puis ça donne comme ça. Tu vas nous parler aujourd'hui de finances et d'étudiants. Puis on a avec nous Émeric Saint-Martin en studio, 5e secondaire, prêt pour le cégep. J'ai comme l'impression que tes conseils vont trouver une oreille bien attentive.
Bien, c'est parfait, t'es un bel addon.
Ben, excellent. On commence par quoi quand on parle d'étudiants puis de finances, là?
Ben, je voulais parler un petit peu de tout. On se met dans la peau d'un étudiant, puis quelles questions peuvent nous interpeller à ce stade-là de notre vie comme vieil ado ou comme jeune adulte sur la ligne entre les deux. Première des choses, si on est comme Émeric qui est avec toi en studio là à l'aube de ses études postsecondaires, on va probablement se poser la question, ouais, je vais avoir beaucoup de dépenses moi l'an prochain, j'habiterai peut-être plus chez mes parents, comment je vais financer tout ça?
Émeric, c'est des questions que tu te poses, c'est valide?
Oui, c'est valide. L'épicerie, tout ce qui est ça.
Évidemment, il y a les programmes de prêts et bourses étudiants gouvernementaux là, que les jeunes entendent sans doute parler dans les écoles, qui ont des points positifs, des points négatifs. Évidemment, si on a une bourse, si la situation financière de notre famille fait en sorte qu'on a des bourses, bien, c'est tant mieux. Sinon, on a à peu près tout le monde accès aux prêts. Mm-hmm. Mais il faut être sage avec ça. Il faut anticiper des remboursements là à la fin de nos études. Donc, il faut comprendre que c'est pas de l'argent gratuit, là, mais c'est de l'argent qui est pour nous aider à court terme. Donc, sur le site de l'aide financière aux études et tout ça, on va retrouver ces informations-là. Il y a aussi dans notre région quelques organismes qui vont donner la possibilité d'avoir des bourses ou des fois, comme les étudiants à leur graduation, il y a des commanditaires, des trucs comme ça, mais il y a des organismes qui vont avoir, je pense, entre autres, là, je veux pas en échapper, mais il y a les bourses La Relève, oui. La Fondation Burle, il y a quelques organismes de ce type-là dans la région. Ces bourses-là, c'est super intéressant. Faut pas oublier, les étudiants, que c'est imposable. Les bourses qui viennent pas du gouvernement doivent s'ajouter à vos revenus que vous avez gagnés là, dans l'année.
OK. Donc.
Parlant de revenus étudiants, là, je vais sortir vraiment des prêts et bourses parce que c'est pas l'objet premier là, de la chronique. Les revenus que vous gagnez. Maintenant, on sait avec le salaire minimum qui a augmenté, j'ai fait un petit calcul rapide, le salaire minimum est à 15,25 $ en ce moment. Un étudiant qui travaille une quinzaine d'heures par semaine pendant toute l'année, ça fait 780 heures. Mais là, si on dit que les 2-3 mois de congé d'été, il travaille peut-être 30-40 heures, l'étudiant, mais ça veut dire qu'il va dépasser le seuil où on paye de l'impôt.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui paient peu ou pas d'impôt, là. C'est standard.
En général, ils paient très peu d'impôt. Je te fais un chiffron, Sébastien, jusqu'à le premier 15 000 $ qu'on gagne dans une année, il est libre d'impôt complètement parce que c'est le seuil où il y a 0 % de taux d'impôt. Par contre, un étudiant qui travaillerait 15 heures par semaine plus quelques semaines à 40 heures dans l'année peut facilement faire 1000 heures dans une année. Fait que si on fait le calcul de 1000 fois 15 et 25, qui est le salaire minimum, puis là, qui n'est pas toujours le cas, on dépasse le seuil imposable. C'est pour ça que je parlais de bourses, là, les bourses de différentes fondations. Ils sont imposables, puis ils vont venir impacter le calcul de vos prêts et bourses aussi. Donc, c'est peut-être important de voir, là, dans un contexte de persévérance scolaire, essayer d'aller chercher des... Je ne dis pas de ne pas travailler, là. Ça fait partie de l'expérience de vie, là. Ce que je vous dis, c'est que soyez conscient que ça a un impact aussi sur votre aide financière aux études, puis d'aller voir, il y a un outil de simulation de calcul de l'aide financière. Si j'ai 1000 $ de bourse, si je travaille un petit peu plus, si je travaille un petit peu moins, ça va me donner quoi en bout de piste? Allez faire l'analyse, ça peut être intéressant pour être en mesure de planifier là, sa prochaine année.
Puis si finalement les nouvelles sont bonnes au bout de ça, ça nous aura quand même permis de faire un bel exercice de compréhension de finances.
Oui, c'est de l'éducation financière, en fait, beaucoup pour les jeunes qui savent. Le site d'aide financière aux études, il est fait entre autres parce qu'il y a une clientèle jeune, donc il est vulgarisé pour cette clientèle-là. Puis ça va être intéressant pour eux de comprendre là, dans quoi ils s'embarquent là aussi, là, parce qu'il y a des simulations de remboursement après, il y a des... on le réalise pas, je sais, j'ai passé par là, ça fait, mais on le réalise pas quand le premier 3000 piastres est déposé dans notre compte de banque, là.
C'est le fun.
Oui, c'est ça, c'est le fun. Puis ça nous sécurise à court terme, mais il faut quand même avoir la sagesse de comprendre ce que ça va donner.
Oui, quand on commence à le rembourser après les études, c'est là où on le trouve moins le fun.
on le trouve moins le fun, mais c'est un investissement.
Ah oui, absolument.
C'est un
réel
investissement. C'est une bonne dette. On a déjà fait des chroniques sur les bonnes et mauvaises dettes. Avoir un prêt étudiant, c'est une bonne dette. Évidemment, c'est une bonne dette si on, si la première année, on utilise tous nos prêts étudiants, on drop après nos études, puis on ne les complète pas, là, ça devient moins bonne dette. Là.
Mais de façon générale, c'est bien, là, oui.
Oui, oui, c'est un investissement dans notre avenir et c'est très bien, puis c'est des belles conditions de remboursement aussi. Ce que je veux dire aussi à ce statut, c'est qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui ont été rigoureux et épargnants pour eux et qui ont des régimes enregistrés d'épargne-études. Et un régime enregistré d'épargne-études, ça a permis aux parents d'obtenir certaines subventions et économies au fil des investissements. Mais l'année où il est retiré, là, si l'étudiant a gagné 15 000 $ cette année-là, mais le 2 000 $ de REE qu'il va retirer s'ajoute au revenu imposable de l'étudiant puis devient imposable dans les mains de l'étudiant.
OK.
Fait que quand on parle de planification financière, tu sais, c'est plate que le parent a épargné. Puis, fait qu'on est peut-être mieux de travailler un petit peu moins puis pas payer d'impôts sur le régime d'épargne études puis d'avoir 5 heures par semaine de plus à consacrer à nos études, justement, parce qu'on sait que c'est un enjeu. Hein, la pénurie de main-d'œuvre, les étudiants qui sont très sollicités, tous les étudiants qui veulent travailler ont un emploi, on va se le dire.
Ah oui, ben oui.
Donc, ce qui n'était pas nécessairement le cas, je ne sais pas toi, Sébastien, tu es plus jeune que moi, mais moi, dans mon temps, il fallait se prouver pour trouver un emploi étudiant.
Ben, fallait que tu sois bon, en tout cas, parce qu'il y avait un meilleur qui pouvait prendre ta place.
exactement, c'est ce qui n'est plus le cas. Donc, au niveau là, du financement des études, ça fait pas mal le tour, mais au niveau du régime enregistré d'épargne études, j'en ai vu des situations là, dans les deux dernières années de pratique où, l'étudiant a travaillé beaucoup, puis le parent retire une tranche de régime enregistré d'épargne études pour ses études, puis à moitié il part en impôt, ça fait mal au cœur.
Oui, quand on aurait pu juste ajuster un peu sans tout couper, puis
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça, puis ça être moins pénalisé. C'est une planification financière. On n'est pas porté à faire ça pour nos études, on est porté à faire ça pour notre retraite.
Oui.
mais bon, il y a quand même une réflexion à faire.
Puis Émeric, on ne t'a pas trop traumatisé jusqu'à maintenant, ça va?
Non, je comprends très bien le principe, mais j'avais une question. Si on a plusieurs comptes, puis je les mets dans différents, est-ce que je vais être revenu imposable?
Plusieurs comptes, si ta paye est déposée dans plusieurs comptes?
Oui, comme pour mon épargne.
Oui, ça change rien parce que tu vas l'employeur qui te paye, peut-être que tu te mets des sous de côté, sauf que tu as quand même à la fin de l'année le T4 de ton employeur ou les T4, si tu as eu plus qu'un employeur, qui vont s'additionner ensemble puis qui vont venir s'additionner sur tes rapports d'impôt. Par contre, je ne sais pas si ça répond à ta question, Émeric, mais je m'en allais un peu dans le sens. Par contre, comme étudiant, tu as aussi des belles économies d'impôts là, qui vont venir réduire. Tu sais, quand je parlais du 15 000 $ après, il y a des frais de scolarité puis des frais de subsistance, certains frais là, parce que vous êtes étudiant à l'extérieur aussi, qui viennent vous aider là, à alléger le fardeau fiscal de l'impôt un peu. Puis là, ça m'amène à vous dire, même si vous êtes étudiant, même si vous gagnez en bas du seuil imposable, moi, je vous recommande fortement, en fait, si j'étais votre parent, je vous imposerais de produire votre déclaration d'impôt parce que ça vous permet, un, d'accumuler les crédits d'impôt. Si vous n'en avez pas besoin cette année, ils sont dans votre dossier pour l'année prochaine, l'année suivante, ou de les transférer à vos parents qui contribuent probablement financièrement pas mal à vos études maintenant. Donc, de produire les déclarations d'impôt, même si on est jeune, même si on n'a pas une obligation parce qu'on n'en payerait pas, ça peut être vraiment, pour moi, c'est très important. Donc, au niveau de l'impôt, deux autres petites choses, là, je sais qu'il y a probablement que j'ai tiré mon temps, Sébastien.
Rapidement, mais on a le temps, on va le prendre.
Première carte de crédit, Émeric, je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi tu as déjà pensé.
Oui, ça
quand on est mineur, il faut un endossement d'un parent ou d'un tuteur ou d'un adulte qui nous fait assez confiance.
Qui signe pour toi.
Et sinon, il faut attendre d'être majeur pour avoir une petite carte de crédit. Moi, je recommande aux étudiants qui peuvent en avoir une d'en avoir une petite et de l'utiliser avec diligence, c'est-à-dire de la payer. Moi, mon fils, il aimerait peut-être pas ça que je dise ça, là, mais il a une carte de crédit, puis là, il va mettre de l'essence et il la paye tout de suite après. Parce que je l'ai bien dompté. mais il bâtit son crédit. Il bâtit son historique de crédit, puis c'est positif. Donc, quand il va arriver après ses études pour s'acheter une auto, il va avoir déjà là, un score de crédit positif à son actif.
Tandis que si on ne fait rien, on ne l'aurait pas du tout.
Oui, exactement. Puis, frais bancaires, si, Émeric, je ne sais pas si tu as des frais bancaires, si oui, appelle à ta banque, ta caisse, en général, les étudiants, les mineurs et personnes majeures aux études, il y a des programmes qui font en sorte que vous n'avez pas là, de frais, parce que maintenant, je sais que vous payez tous et toutes avec le TAP tout le temps, donc c'est des petites ouais. transactions de débit, même pour quelques dollars. Donc, pour les étudiants, les jeunes, normalement, toutes les institutions financières ont des économies importantes là, à ce niveau-là.
Bon, ben voilà, on a une belle liste de choses à faire. Lynn Kearney, un grand merci. C'était la dernière chronique. La saison se termine cette semaine. Un merci immense pour ton précieux temps chaque semaine pour nous parler finances puis faire notre éducation financière.
Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir. Merci. Puis bonne fin d'année, Émeric.
Merci.
Merci, Lynn. Bye-bye.